RMC, Lahaye, l'amour et vous, Brigitte Lahaye.
Et dans cette deuxième heure, Pascal Neveu est toujours avec nous et on est prêt à vous écouter à tous les sujets, avec tous les sujets qui vous intéressent. On continuera peut-être à évoquer ce spectacle avec Trinidad qui est avec nous et pendant ce temps Simone Veil. Et puis ensuite, notre guide, ce sera Robert Zwilly et on va développer la joie et la bonne humeur avec lui. En love conseil, je vous proposerai de fabriquer votre album photo de couple. Et puis nous retrouverons un fil d'Ariane parce que c'est bientôt l'Euro, c'est bientôt les JO et donc elle a une méthode minceur, très haute pour les sportifs et elle nous racontera ça dans quelques instants. Tout de suite on retrouve Jessica qui veut témoigner et qui est avec nous au 32-16. Bonjour Jessica.
Bonjour Brigitte, bonjour Trinidad.
Bonjour Jessica.
Bonjour, j'espère que vous passez une très bonne après-midi.
Parfaitement bien, oui. Dans la joie.
Et avec vous en plus.
Mais moi, je suis bien d'accord avec l'idée de Trinidad, hein, de se monter les uns sur les autres.
Écoutez, je ne sais pas dans quel état nous allons finir cette émission.
Pascal, vous avez trois femmes qui vont vous monter dessus. Ça va, vous vous sentez d'attaque?
Je m'offre à vous.
Bon. C'est ça, hein, dans la liberté de la femme, c'est ce que je voulais dire, c'est que, enfin, en tant que libertine, ce qu'on aime, nous, surtout les femmes, au jour d'aujourd'hui, en 2016, c'est vraiment le préservatif. Parce que, en plus de la pilule, le préservatif nous a permis de coucher avec l'homme avec qui on a envie de coucher, quand on veut, sans pour autant
que ce soit là, moi, je suis pas d'accord, c'est parce qu'on n'a pas le même âge, Jessica, mais moi qui ai connu la période faste, pilule, sans préservatif, c'était quand même mieux. Hein. Voilà, bon, maintenant.
Je suis totalement d'accord.
Ouais, oui, il n'y avait pas la maladie, il n'y avait pas le VIH, bien sûr.
Bah, il y avait des maladies et j'en ai attrapé quelques-unes, mais elles se soignaient toutes. Donc, on pouvait vraiment.
Je crois que Régis Maillot qui dit faire l'amour avec un préservatif, c'est comme manger sur une toile cirée toute sa vie.
Oui. Bah oui, c'est pas. Enfin bon, moi, je pense qu'en effet, on n'a pas le choix aujourd'hui, mais c'est quand même pas tellement rigolo le préservatif. Vous trouvez ça rigolo, vous, Jessica?
Mais non, c'est vrai que quand on n'a pas le choix, de toute façon, il vaut mieux l'utiliser que rien faire du tout. Maintenant, je préfère vivre ma sexualité librement avec un préservatif plutôt que de m'en passer et de me retrouver avec un besoin que je n'assouvirai pas. Enfin, avec moi-même peut-être, certainement, mais avec un partenaire que je choisirais.
Bien sûr.
En club, par exemple, heureusement que le préservatif est là, bien sûr. On n'aurait pas cette liberté comme on a autant au jour d'aujourd'hui.
D'accord. Absolument. Et alors donc, vous êtes épanouie?
Oui, au jour d'aujourd'hui, je suis épanouie avec et sans préservatif, mais encore plus avec préservatif, bien sûr.
Et alors votre sexualité, parlez-nous-en.
Ben, on va pas rentrer trop dans l'intimité non plus, mais en tant que libertine, c'est vrai que je prends la pilule, moi, pour mes besoins personnels, mais j'ai mes préservatifs préférés que j'ai sélectionnés parce que ils sont beaucoup plus intéressants, on va dire, dans un rapport dans la durée. Ils sont fins et ils sont résistants, sans donner de marque, mais je ne fais pas sans préservatif.
Et donc oui, vous en avez sélectionné plusieurs.
Oui.
Et alors, vous les préférez?
Alors, moi, ça m'intéresse, Jessica, parce que moi, personnellement, en tant que femme, j'ai jamais trouvé une très grande différence entre le préservatif lambda et le préservatif sublime machin.
Parce que l'homme, à la limite, effectivement, ça l'intéresse davantage, parce que le ressenti n'est pas le même. Mais vous, en tant que femme, vous sentez la différence?
Mais oui, pour les avoir essayés, enfin la plupart, hein, pas toutes les gammes non plus, mais c'est vrai qu'en tant que libertin, on a tendance à choisir nos préservatifs et aller en club avec nos préservatifs. Parce que les préservatifs gratuits qui sont proposés généralement dans la plupart des clubs ne sont pas très très solides, sont petits et sont très épais.
Il faut y aller avec son matériel, je suis d'accord.
Voilà, alors que quand on y va avec son matériel, sans parler du service trois pièces, n'est-ce pas? Quand on choisit son préservatif, il existe des préservatifs très très fins, comme il existe des préservatifs avec des petites
des rainures, des petites
non mais je voilà.
Des parfums aussi, non?
Des parfums absolument.
Bien sûr.
Oui, mais ça c'est pour la fellation,
parfums,
hein, Trinidad.
Ouais, c'est mieux pour la fellation, exactement.
Parce
que dans notre vagin jusqu'à nouvel ordre, il goûte pas tellement le mien en tout cas, il goûte pas tellement la saveur banane ou fraise ou enfin bon, peut-être le vôtre, hein, Trinidad.
Ils n'ont ni le goût, nos vagins, ils sont cons.
Bah ils sont pas le con, c'est autre chose, Jessica,
oui, c'est
pas le vagin.
Chose, c'est autre chose. On va faire un cours d'anatomie, là.
En tout cas, oui, pour parler des préservatifs, c'est mieux quand ils sont fins, bien sûr. Après, il y a certaines femmes qui les préfèrent épais, avec, comme on disait...
Ah bah, il y a des femmes qui préfèrent les grosses aux fines, hein, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais encore une fois, à part le préservatif noir, parce que ça mincit, et celui-là, moi, je ne le conseille pas. Sinon, franchement, tous les préservatifs se valent, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Trinidad?
Oui, moi je vois pas de différence personnellement. Non, je ne sens pas plutôt que boire. Oui.
Oui. Mais c'est vrai, c'est vraiment un problème d'homme le préservatif, malheureusement. Alors après il y a le préservatif féminin qui devient un problème de femme. Alors franchement celui-là,
il est très peu utilisé.
Pas très romantique. Ça fait du bruit en plus. Donc franchement non, je crois que c'est vraiment un problème d'homme. Ouais, vous êtes
totalement
d'accord, Pascal?
Hein. Bien évidemment. Et nous il faut qu'on soit à l'aise avec ça.
Pas que ça sert trop.
Ça sert trop, etc. Et puis qu'on puisse ressentir les choses.
Enfin, aujourd'hui, ils sont quand même très fins, mais malgré tout, ça reste... Enfin, moi, je trouve que le préservatif, c'est plus pénible pour l'homme que pour la femme. Voilà, moi, je me demande même, d'ailleurs, à part des problèmes de lubrification, mais si on a les yeux fermés, si on ne sait pas si l'homme a mis un préservatif ou pas, je ne suis pas sûre qu'on le sente tant que ça. Hein.
Si on ne le connaît pas.
quand on le connaît bien, la moindre petite différence, on le sent, bien sûr. Bon, enfin voilà, c'était une discussion de salon entre femmes, et c'est à peu près ce que vous allez découvrir d'ailleurs.
Mais
Pascal, laissez-moi terminer. C'est ce que vous allez découvrir à partir du 10 juin, puisque l'Euro va commencer dès 14h sur RMC. Par contre, le soir, de minuit à 2h du matin, on a décidé, dans La et l'amour et vous, d'être comme ça, entre femmes, pour parler de toutes ces choses-là, hein, parce que c'est quand même important aussi qu'on puisse un peu discuter entre femmes. Et à chaque fois, il y aura un homme. Voilà. Ah. Et si vous voulez venir, Pascal, vous viendrez de temps en temps le soir.
Sélectionné sur le préservatif.
Ah bah, on va en parler longuement, surtout à minuit.
Voilà. Allez, on continue avec Eric qui est avec nous. Bonjour Eric.
Bonjour Brigitte.
Bonjour Eric.
Bonjour.
Alors, vous avez envie de parler de votre régime, Eric?
Tout à fait, oui. J'ai entamé un régime il y a à peu près un an et j'ai perdu presque une vingtaine de kilos.
Ah oui.
Et je voulais juste témoigner sur le fait que perdre du poids a vraiment une incidence sur sa sexualité.
Eh oui.
Et puis en faire profiter un peu vos auditeurs qui ont souvent, comme moi le premier d'ailleurs, eu du mal à le croire et il s'est avéré que c'était tout à fait vrai.
Bien évidemment. Voilà. En termes de séduction, en termes de pratiques sexuelles.
En premier, en termes de séduction, parce que physiquement, 20 kilos, ça se voit. Et puis, on se sent mieux, on est physiquement plus apte à faire des choses que l'on ne faisait plus forcément. Et donc, on retrouve des plaisirs qu'on avait oubliés, il faut le dire aussi.
Oui, il y a souvent d'abord la question de l'estime de soi, évidemment. Et puis, on a beau dire, chez un homme, 20 kilos, ça se porte beaucoup sur le ventre. Et vous voyez plus tellement votre pénis. Non, mais c'est vrai, Pascal. Mais arrêtez de rigoler. Comme si j'étais
en... Non, parce qu'en fait,
je ne dis pas que des bêtises.
Non, Brigitte, vous dites ce que j'allais dire. Donc, je suis très content.
Pardon.
Et que ça vienne de la part d'une femme, c'est encore mieux. Effectivement, à un moment donné, effectivement, on voit plus qu'on a entre les jambes.
Je confirme, c'est tout à fait vrai.
Oui, mais c'est important parce que on a parlé, je crois que c'est la semaine dernière qu'on a fait une émission sur le narcissisme. Et franchement, moi je le sais puisque j'ai quand même pratiqué avec des ardeurs, hein, donc des acteurs de pornographie. Et moi, ce que j'ai constaté chez eux, cette capacité à être en érection, à bander sur commande, etc. Mais parce que ils regardent leur sexe avec une admiration.
Il y a cette fierté, effectivement, de pouvoir observer son sexe bandant.
Voilà. Et ça c'est quelque chose qui est important pour un homme, pour se sentir viril, c'est de voir cette petite bête qui grandit et qui reste.
Cette petite bête.
Ah oui, par rapport à un éléphant, c'est une petite bête quand même.
C'est pas faux.
Et je pense que ça, Eric aussi, c'est important. Ça, je sais pas si vous l'avez formulé de cette manière-là, mais je pense que ça a dû vous aider aussi.
Oui, tout à fait. Oui, je crois que reprendre peut-être son corps, en fait, hein, c'est ça dont on parle.
Ouais, c'est ça.
Et puis l'estime de soi, je crois que c'est important aussi. On finit par s'avouer vaincu quand on prend du poids et qu'on n'arrive plus à en perdre.
Oui.
Les années passent, on arrive à la cinquantaine et puis on a l'impression que c'est fini. Et puis un jour, la santé vous rappelle à l'ordre et là, vous êtes motivé
C'est à cause de problèmes de santé que vous avez été obligé de perdre vos 20 kilos.
Alors très honnêtement, c'est pas forcément à cause, mais un petit problème de santé a été trouvé et bizarrement ça a été un déclencheur qui m'a permis d'envisager une perte de poids importante sans réellement avoir de sentiment de sacrifice. Et ça, je crois que ça a été primordial. Je n'ai jamais eu le sentiment de me faire du mal en perdant du poids, bien au contraire.
Mais c'est bien parce que vous êtes jeune et effectivement vous retrouvez toute une nouvelle vie, hein, c'est une nouvelle tranche de vie, une nouvelle forme de sexualité.
Oui.
Également.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Oui, ça a été un petit signal qui vous a un peu alarmé, qui vous a motivé, c'est très bien. Mais je pense, et merci de témoigner en ce sens, Eric, je pense qu'on peut vraiment, et ça demande un petit effort, mais on peut vraiment perdre les kilos, il faut juste avoir...
Il y a des âges hein, pour ça, le métabolisme évolue, etc. Et là, vous êtes dans une tranche d'âge où effectivement, c'est pas évident, mais vous y êtes parvenu, hein, et il faut le stabiliser. Mais je pense qu'avec les bénéfices que vous retirez là actuellement vont vous aider effectivement à maintenir cette stabilité et puis à rester mince jusqu'à 60, 70 ans et pas être ventripotent.
Bah écoutez, j'espère que ça sera le cas, mais effectivement, on le ressent déjà, enfin moi psychologiquement, bien sûr.
Ah oui, c'est ça.
Une telle perte de poids fait que vous n'avez pas envie de refaire marche en arrière. Donc on s'autodiscipline, hein, c'est ça. Et on s'oblige à ne plus revenir en arrière. Hein, très honnêtement.
Franchement, Eric, ce qui est important, c'est de ne pas faire de régime, mais c'est d'avoir une hygiène alimentaire et physique et sportive. Oui. Qui va permettre de ne pas reprendre de poids. Alors vous reprendrez peut-être 1 ou 2 kilos, mais ça c'est pas grave. Mais c'est vraiment, il faut surtout pas maintenir un régime parce que c'est trop pénible, c'est pas du plaisir.
C'est trop frustrant, c'est trop contraignant et à un moment donné on lâche. Et puis je crois que voilà, comme le dit Brigitte, à partir du moment où on a une bonne hygiène de vie, on fait un peu de sport et on mange de manière équilibrée, sans se forcer également, bah tout se passe très bien. Notre corps, il nous dit de toute façon ce dont on a besoin. Également. Et là, le meilleur exemple que vous donnez, Eric, c'est effectivement, bah, maintenant, j'ai retrouvé une sexualité totalement épanouie. Et ça, je pense que c'est un bon stimulant aussi. Hein.
Ah oui, ça l'est, oui, ça l'est. Je tiens à préciser que je n'ai fait aucun régime dont on entend parler. Hein. Ouais. Il s'agit tout simplement de la réduction de la part alimentaire journalière.
Voilà,
on est bien d'accord. Je n'ai en aucun cas suivi quelque régime que ce soit. Tout simplement en réduisant la part alimentaire, celle dont j'avais besoin, pas plus.
C'est
peut-être
ça.
Un peu moins pour taper, je dirais, dans les réserves. Et c'est avéré que le sport aidant, ça a été vraiment bénéfique et très facile.
Et perdre les kilos tout doucement pour pas mettre son corps à mal. Et...
Oui, je crois que 20 kilos sur un an, bon, bah, malgré tout, c'est impressionnant pour ceux qui me connaissaient avant, mais ça reste quelque chose de tout à fait raisonnable.
Non, c'est pas mal quand même. Si, c'est pas mal.
Il faut pas dire perdre, si je peux me permettre, Eric, parce que les mots sont importants. Il faut dire je m'allège, je lâche.
Voilà,
parce que quand on perd, on a envie de retrouver.
Non,
donc on les laisse partir.
Voilà, on les laisse partir, tout à fait.
C'est voilà. Joli, Trinidad, bravo. Merci, Eric. Merci
Eric.
Beaucoup.
Merci à vous. Bonne fin de journée. Au revoir.
Merci. Nous avons David qui a testé pour nous ce. Alors, c'est pas un jouet, hein, c'est un masturbateur, mais enfin, c'est normal. C'est pour homme, hein, David. On l'a compris, c'est un homme. Et c'est donc la vaginette Clara Morgan. Alors pourquoi Clara Morgan? Tout simplement parce qu'il y a une photo d'elle sur ce masturbateur. Hein. On commence à connaître les masturbateurs, ça ressemble à une sorte de.
Pas.
Vous connaissiez pas
Trinidad? J'ai bien fait
de
venir, je
voilà, c'est une sorte
toute
de.
L'éducation
de cône, avec à l'intérieur du silicone et qui semble ressembler à un vagin. Mais David va nous préciser si c'est le cas ou pas. Bonjour David.
Oui, bonjour.
Bonjour David.
Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, c'est pas la vraie Clara Morgan, hein. Faut pas rêver.
Il fallait pas lui dire.
Oui, c'est vrai que c'est pas ça. Mais non, sinon, ben, c'est vrai que la sensation est pas mal. Ça remplace pas la femme, et c'est sympa.
Ouf,
c'est gentil.
Mais sinon, ben. Voilà,
même les yeux fermés.
Ouais, bon, si on y pense très fort, pourquoi pas. Mais sinon, bien. Il y a un lubrificateur qui est très sympa, le toucher, le latex, c'est vrai qu'il est très très doux et très sensuel. Mais après, bon, bah voilà quoi. Et vous, enfin moi, personnellement, je préférerais le retirer de l'étui.
Ah oui, d'accord, vous prenez la gaine sans le cône. Bah, donc Clara Morgan, vous la mettez de côté, quoi.
Ouais.
C'est difficile comme garçon.
Et alors, est-ce que le fait qu'elle soit striée, la gaine, ça apporte un plus?
Ben, je pense, hein, parce que à l'intérieur de l'étui, bon, je vais pas à me vanter, mais bon, la nature m'a bien gâté, donc c'est un peu dur.
Ah oui.
De pénétrer.
D'accord, oui, oui. Mais cela dit, c'est pas facile, il paraît. Enfin, moi, c'est ce que les hommes m'ont raconté. C'est vrai que c'est un vagin très étroit quand même au départ. Hein. Voilà. Alors après, voilà. Une fois qu'on est dedans, on est dedans, mais c'est vrai, c'est vrai. Bon, et ben écoutez, quelle note vous lui donnez à cette vaginette?
Écoutez, moi, je lui mettrais bien 6 ou 6-7.
6-7, bon. Ça dépend des
journées. Sur 10?
Oui, oui.
Voilà, ça dépend des journées. Voilà.
Cette vaginette Clara Morgan, vous pouvez vous la procurer si vous le voulez sur la boutique de l'émission sur rmc.fr. C'est joli d'ailleurs, vaginette. On devrait appeler nos vagins comme ça, ça serait plus
joli. Oui, c'est joli.
Hein, vous êtes d'accord?
Oui, ça fait penser à la visirette, vous savez, par la lessive.
Décidément, vous
c'est
êtes
pour
très
le programme Essorage, c'est ça, non?
Vous êtes très marqué par la pub, Trinidad. Merci beaucoup, en tout cas, Pascal Neveu. Je rappelle que vous êtes également auteur de ce livre Revivre même quand on est terrassé aux éditions Sola. C'est vrai que là, on a besoin peut-être d'une piqûre de narcissisme dans ces cas-là. Nous avons notre gagnant aussi qui pourra partir un week-end au Saint-Cyprien Golf Resort et son hôtel, le Mad Duston 4 étoiles. Et merci beaucoup, Trinidad. C'était un plaisir de vous recevoir. Et si vous voulez venir au mois de juin, un soir, vous êtes là bienvenue. Ce spectacle et pendant ce temps, Simone Veil, vous retrouvez toutes les infos sur rmc.fr. C'est jusqu'au 26 juin et c'est au théâtre Héberto. Dans un instant, on va vous proposer d'être joyeux grâce à Robert Zulli qui est avec nous. À tout de suite.
RMC, 14h-16h, là est l'amour et vous. RMC, Brigitte Lahaye, Love Conseil.
Eh bien, pourquoi ne pas créer ensemble son album photo? C'est une belle manière de passer un moment d'intimité qui va réunir le couple dans ce qu'il y a de plus fort. Donc, je vous propose de choisir ensemble de faire un album photo de vos meilleurs moments passés ensemble depuis votre rencontre. Et vous verrez, ça sera assez drôle parce que chacun aura envie de mettre plutôt telle photo et puis l'autre telle autre. Enfin bref, ce qui est important, évidemment, c'est de vous mettre d'accord, hein. Il ne faut pas que ça provoque une dispute. Et vous pourriez aussi mettre des mots, des commentaires et pourquoi pas des couleurs afin de rendre vraiment cet album particulièrement personnel. Une sorte finalement de journal intime de votre couple qui serait donc illustré par des photos. Et si vous ne voulez pas le faire ensemble, peut-être que chacun peut faire son album photo ou l'un fait l'album et puis l'offre à son partenaire pour une belle occasion. Ou alors, peut-être aussi, on peut faire une sorte de puzzle, vous savez, sur un grand tableau, on colle différentes photos. Voilà, alors après, on peut faire des photos plus sexy, moins sexy, enfin, voilà. C'était peut-être ce que je pouvais vous proposer pour ce week-end. Et puis, bien sûr, pourquoi pas offrir pour la fête des mères l'album photo de ses enfants, si par exemple, votre mère est grand-mère. Ça serait, je pense, une belle occasion de marquer le coup. Robert Zulli, bonjour.
Bonjour Brigitte.
Vous êtes psychologue clinicien et surtout, je le dis toujours et je le pense sincèrement, notre spécialiste des émotions. Vous avez fait un travail tout à fait remarquable sur toutes nos émotions et vous avez déjà sorti de nombreux ouvrages sur le sujet, notamment les éditions Mango, les derniers livres. Et aujourd'hui, on a déjà évoqué d'autres émotions avec vous. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'être positive et on va parler de la joie.
Vous avez bien raison, en ces temps rudes, comme on dit, c'est agréable de se préoccuper un peu de ce qu'est cette émotion qu'est la joie, qui est un bien précieux, pas si simple à conquérir. C'est comme un territoire assez idéalisé, qu'on touche du doigt de temps en temps et qui permet de construire le bonheur, mais il se mérite. La joie se mérite. C'est pas une fin en soi, c'est pas un objectif à tout prix à atteindre, il est une conséquence.
Et, ah oui, c'est-à-dire
une joie est le fruit d'efforts que nous avons consacrés dans le cadre d'enjeux qui comptent pour nous. Alors évidemment, on peut bien sûr se dire qu'il y a des joies simples, accessibles, comme le plaisir de regarder un beau coucher de soleil. Ce sont des joies gratuites dont il faut savoir se nourrir. Mais la joie profonde qui va nous permettre de renforcer notre estime de soi, de participer à la construction du bonheur, elle se mérite parce qu'elle est toujours l'aboutissement. Si on veut bien regarder nos joies, elles sont toujours l'aboutissement d'une peur ou d'une colère qu'on aura su réguler. qu'on aura su.
C'est en ça que
construire.
La joie chez l'enfant est très différente de la joie chez l'adulte. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. L'enfant, on a l'impression qu'elle est assez spontanée, la joie chez un enfant.
Elle est spontanée, mais
maman,
si vous êtes
dans sa chambre, il est tout joyeux.
Oui,
quoi. Enfin,
mais si vous êtes attentif vraiment à ce qui se passe, il est d'autant plus heureux qu'il avait peur au fond de ne jamais la retrouver. Et c'est cette dimension, cette dichotomie qui cohabite dans l'expérience de la joie, c'est-à-dire que notre joie ne sera jamais aussi intense que nous n'aurons fourni d'efforts intenses pour y parvenir. Et ces efforts, nous allons les faire pour lutter contre nos peurs qui, vous savez, de temps en temps nous handicapent. Hein, si on a envie de conquérir une femme et qu'on se sent pas à la hauteur, qu'on recule les échéances, et puis qu'au fond, un jour, on se jette à l'eau et que tout se passe bien, on va ressentir une plus intense satisfaction que si on a juste l'idée qu'on y va et que ça marche. C'est ça le ratio qu'il y a. Il y a un ratio vraiment, c'est presque mathématique, effort.
C'est comme le désir, on a plus de désir s'il faut aller jusqu'au 7e étage que si elle habite au 3e, c'est ça.
Par exemple, alors on peut prendre l'ascenseur aussi, mais c'est pas pareil.
Non, c'est pas pareil, l'ascenseur, alors là, il n'y a plus de joie du tout.
Non, mais
c'est une image évidemment que je donne.
Mais tout à fait, elle a cette valeur-là de l'effort. Alors, la caractéristique aussi, c'est que dans notre société plutôt judéo-chrétienne, parfois l'effort ne suffit pas. Il faut aller jusqu'à souffrir. Parce que si on ne souffre pas, on ne va pas profiter de sa joie de manière pleine et entière. Et on pourrait se sentir coupable d'accéder à des joies trop faciles.
Oui, enfin ça c'est quand même un peu en train de disparaître, cette culture-là.
C'est en train de disparaître, mais regardez, il y a encore quelques années, par exemple, je prends souvent l'exemple du lieu d'accouchement des femmes, l'accouchement est un moment extraordinaire, plein de joie. C'était un lieu qu'on appelait la salle de travail parce que le travail est associé à une souffrance. Et il y a un ensemble, c'est pareil dans le travail, il y a beaucoup de gens pour qui le travail ne peut pas être une source de plaisir parce que c'est d'abord un labeur. Et on a mis du temps à se séparer de la souffrance pour accéder à la joie, puisque la joie nous procure du plaisir alors que la tristesse qui est son opposé va générer de la souffrance. Et il y a eu toujours un rapport ambigu dans notre société entre le plaisir, la souffrance, la joie et la tristesse.
Alors, ce que vous dites est intéressant parce que aujourd'hui on est quand même dans une époque où la vie pour l'humain est plus facile que à l'époque il y a plusieurs siècles.
Probablement. On pourrait l'objectiver.
Oui, bien sûr. Mais après, évidemment, comme on veut toujours plus, on considère qu'il y a des choses qui ne vont pas. J'entends bien.
Exactement.
Mais cette notion de joie, finalement, peut-être est assez nouvelle. Pour nous.
Alors, elle est nouvelle parce qu'aujourd'hui, il y a des moyens plus faciles d'y accéder à cette joie instantanée. Vous pouvez le voir dans les phénomènes pour les jeunes. Les jeunes accèdent plus facilement à des habitations, à du confort de vie très, très vite. Il y a 30 ans, 40 ans, un jeune de 30 ans, c'était régulier qu'il n'ait pas un grand confort dans son domicile. Aujourd'hui, les jeunes de 20 ans, 25 ans, ils ont déjà tout chez eux. Et ils ont accès immédiatement à ces éléments qui sont source de plaisir. Vous voulez vous acheter quelque chose, vous pouvez faire un prêt à votre banque. Il y a plus cette notion telle que certains de nos aïeux nous l'ont inculquée, c'est-à-dire de se dire ouais mais tu vas devoir bosser un peu, tu vas devoir trimer, tu vas devoir faire des efforts. Cette notion-là est différente.
Mais oui, ce que vous dites est aussi intéressant. Je pense aux enfants qui sont nés dans des familles particulièrement aisées et qui ont tout eu. À un moment donné, finalement, le plaisir de pouvoir s'acheter quelque chose, voire même d'avoir économisé un petit peu, c'est vrai que la joie à ce moment-là, au moment où on a cet objet-là, elle est immense, beaucoup plus que si on a finalement tout eu.
Oui. Et ce que vous dites pose la question de est-ce qu'on peut tout avoir ? Et le rapport au plaisir, il est assez complexe pour ça, parce que on est dans une société où parfois ça devient plus facile justement de ne pas faire d'efforts et ressentir en contrepartie du plaisir. Et ça développe tout ce qu'on appelle les conduites addictives. C'est-à-dire ce sont des conduites qui vont nous permettre de ressentir de la joie sans forcément avoir la contrainte de fournir des efforts intenses. Et c'est comme ça qu'on devient dépendant à l'alcool. C'est comme ça qu'on devient dépendant à la drogue.
Oui, et à ce moment-là, la joie diminue quand on prend son verre.
Et c'est ce que vous disiez, quand on a tout, Ben c'est difficile de se réjouir. Il faut augmenter les doses. Quand vous buvez de l'alcool et que vous vous sentez dans un état d'euphorie, que vous vous sentez bien, ben vous commencez à boire de l'alcool de plus en plus tôt. Et puis il faut augmenter les doses. Et parce que la sensation se réduit, il y a une accoutumance. Et c'est ça devient un cercle vicieux qui fait que du coup, on est dans un rapport plaisir-souffrance qui devient terrible. Parce que dès que le plaisir s'arrête, l'estime de soi n'est plus suffisamment forte pour nous permettre d'étayer.
Donc finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il vaut mieux avoir de la joie après y avoir un peu travaillé que cette joie comme ça qu'on peut...
Alors, ce n'est pas exclusif. Mais si on veut construire une joie profonde, durable, que nous saurons partager avec les autres, c'est effectivement plus efficace de construire des joies qui sont le fruit d'efforts, parfois intenses. On n'est pas obligé d'être dans la
c'est,
douleur.
C'est intéressant parce que vous parlez beaucoup aussi des aux parents des émotions pour leurs enfants.
Bien
donc
sûr.
C'est peut-être intéressant que les parents comprennent ça pour que leurs enfants ils aient de la joie, mais pas parce qu'ils ont tout, quoi.
Et exactement. La joie se mérite. C'est un Graal. Et à ce titre, elle mérite notre attention, notre respect, et elle mérite qu'on y consacre du temps. Et ça, ça pose un souci, parce que comme on est dans une société, et vous le disiez, le rapport à la joie est différent, on est dans une société où tout devient accessible très vite. Grâce à Internet, vous savez tout en temps réel. Vous pouvez accéder à n'importe quoi, quasi instantanément. Il n'y a plus cet effort. Avant, quand vous deviez aller rechercher une information, vous alliez en bibliothèque, vous épluchiez les livres, vous mettiez du temps, et quand vous tombiez sur le bon article, vous étiez conscient de l'effort que vous aviez fourni, vous étiez content de ça. Aujourd'hui, vous tapez quelques mots dans un moteur de recherche et l'information arrive.
Donc, c'est vrai.
Donc la conscience que l'on a du plaisir, elle est un peu diminuée dans l'intensité, compte tenu de la facilité avec laquelle on peut accéder aux choses désormais.
Alors,
donc, le rôle parental, il est là.
Oui, absolument. Et donc, nous aussi, en tant qu'adultes, il faut peut-être aussi se redonner du temps pour laisser la joie nous envahir, au fond.
Se redonner du temps, accepter de ne pas y accéder instantanément. Et puis, ce qui va aller un peu à contrario de tout ce que je viens de vous dire, il faut aussi savoir s'autoriser des plaisirs gratuits. Des petites joies fugaces qui seront l'objet d'intentions sans objectif réel, mais qui vont nous satisfaire, c'est-à-dire s'offrir un petit plaisir, être capable de s'offrir une paire de chaussures quand on a envie, un sac à main ou un objet électronique parce qu'on a les moyens de le faire, et réaliser le plaisir qu'on a à ce moment-là. C'est-à-dire que si on ne produit pas d'efforts...
Oui, ne pas considérer que c'est naturel.
Voilà.
C'est ça.
C'est avoir la conscience pleine et entière de cette chance que nous avons de pouvoir profiter des choses.
Alors justement, on va en venir au couple, Robert Zwilly. C'est quelque chose évidemment qu'il faut le plus possible partager, la joie entre nous, j'imagine.
Oui.
Et en même temps, première question, comment on fait quand notre partenaire revient tout joyeux, peut-être parce que il a été félicité par son patron, ou parce que peut-être il a passé l'après-midi avec une maîtresse, mais ça, on le sait pas. Alors que nous, on est plutôt triste. Comment on fait? Parce que ça peut être source de conflit,
c'est,
non?
Ben c'est pour quelqu'un qui est triste, c'est qu'il est en souffrance. Alors il y a des petites souffrances, c'est pas forcément un drame. Ça peut être des contrariétés. Quand on est dans cet état, on est probablement moins bienveillant.
On peut se sentir même agressé par la joie de l'autre.
Et moins capable d'accueillir l'émotion positive. Et vous le voyez, forcément, vous l'avez déjà vous-même vécu. C'est que dans votre vie, vous avez eu des moments de joie intenses, et puis vous en avez parlé autour de vous, et puis vous avez senti des regards d'incompréhension, voire c'était presque étonnant que vous osiez afficher cette joie alors que l'environnement n'était pas tout à fait réceptif.
Je ne vois pas de quoi vous parlez.
Non. Bon, mais réfléchissez. Et ça, c'est perturbant. C'est-à-dire que le monde, il est aussi fait de souffrance, et c'est l'intelligence
oui,
émotionnelle.
C'est indécent, finalement, la joie de l'autre.
D'afficher son bonheur, c'est indécent. Comme parfois,
et dans mon cas, c'est immoral.
Oui.
N'est-ce pas, c'est ça?
Peut-être même. Mais ça, je ne suis pas dans le jugement de valeur, donc je ne m'autoriserai pas à vous dire ça. Mais on le voit même dans des cultures différentes où la simple expression émotionnelle est un sujet tabou. dans certaines...
Oui, imaginons lors d'un enterrement, vous avez quelqu'un qui se met à rire parce qu'il est tout à fait joyeux. Enfin, c'est totalement...
Oui, mais ça pourrait se comprendre aussi. Parce que c'est pas congruent. Mais si, dans certaines cultures, vous avez des gens qui ne pleurent pas, ça choque autant que quelqu'un qui rirait. Mmh. Dans d'autres, au contraire, c'est le silence qui est une marque de respect. Donc pleurer, c'est ne pas être maître de ses émotions et ça va être interprété comme un signe de faiblesse.
Et puis, c'est une joie de reprendre ce fil d'Ariane et vous allez nous dévoiler la méthode secrète, minceur, très hot, pour que les sportifs, nous cachent.
Ah oui, l'Euro arrive bientôt, donc il fallait que je vous parle un peu de sport. Et en fait, j'ai trouvé ce qui va remplacer le fitness pour les sportifs, c'est le FitSex. BankFit, c'est le nouveau site fitness lancé par le site pornographique Pornhub. Et alors, il vous propose des sexercices, voilà comment il les appelle, pendant 30 minutes, parce que oui, il faut faire du sport pendant 30 minutes d'affilée. Je sais plus qui dit ça, il paraît que c'est pas forcément vrai.
Ils sont de plus en plus nombreux.
Voilà, et alors donc, mais c'est incroyable ce qu'on voit sur le net, et c'est plutôt rigolo là dans le genre, on vous propose plusieurs positions sexuelles pour brûler le maximum de calories avec votre partenaire.
34 calories en 10 minutes.
Oui, pour quelle position là, laquelle vous regardez, Brigitte?
Je ne sais pas, c'est l'Amazon, oui, c'est nous qui faisons tout là, évidemment.
Ah oui, et on vous dit combien de calories l'homme perd dans cette position et la femme perd dans cette position?
Alors l'homme perd 34 calories, la femme perd 34 calories et l'homme 17.
Voilà. Deux fois moins.
Et alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous allez choisir...
Attendez, je vous cherche la position dans laquelle vous allez perdre le plus de calories, hein, Robert Zwilly.
Ah bah attendez, merci, vous avez beaucoup de feuilles, ça va vous prendre du temps.
50 calories.
J'espère.
Mais en même temps, si Robert veut perdre beaucoup de poids, il peut s'adonner à tout type d'exercice, quitte à faire carrément tout le programme. Vous le pouvez sur 30 minutes et réaliser toutes les positions.
Le maximum c'est 50 calories, hein. C'est pas très rentable. Tenez, je vous la donne, hein, pour ce soir.
Vous pouvez faire un try again. Vous pouvez rejouer donc. Vous choisissez un film X qui vous est offert en même temps et vous allez devoir imiter donc les actions, le rythme de celle-ci grâce à des avatars qui indiquent la posture et la vitesse à emprunter, et tout ça grâce à un téléphone que vous allez fixer dans une banane que vous portez sur votre ventre. C'est très glamour. D'accord. Là aussi. Et donc, à la fin, vous avez un coach sexuel qui vous dira si vous avez bien ou pas très bien réussi l'exercice en fonction de la posture que votre corps va prendre ou du rythme que vous allez adopter.
C'est plutôt de rigolo, finalement.
Oui, c'est ça. Bon, ça surfe sur...
Non, ça vous amuse pas, Robert? Ça vous met pas en joie?
Si. Mais pourtant, on peut fournir des efforts. Qui
J'arrive à rendre triste le spécialiste de la joie. Hein. C'est quand même terrible.
Vous avez l'air consterné.
J'essayais de voir quel programme on pourrait faire pour perdre 5 kilos par mois avec cette méthode. Il faut ouais. Y aller, non?
Ah, il faut y aller, franchement. Il faut jouer plusieurs fois par jour et c'est ne pas ça. Hésiter à rejouer quand vous n'arrivez pas à bien faire les exercices pour vous faire fondre un maximum. Alors, mais en fait, ça marche un peu sur le principe de la Wii Fit version Wii Fit du sexe. Voilà.
Non, mais c'est bon. De toute façon, tout ce qui est position, ça amuse toujours. Et puis bon, après, ça donne des idées, hein, parce que vous savez, oui. Faut le rappeler, hein, les couples, c'est toujours les deux mêmes positions. Pas là, au moins, il y a un petit peu de variante.
Mais oui, s'il manque un peu de libido, après tout, dans un couple, et ils savent pas trop comment s'y prendre. Tiens, jouons à la Wii Fit Sex, et le tour est joué. Et ils reprennent une activité sexuelle.
Oui. Mais enfin, ça reste quand même très peu de calories, et ça, c'est toujours ce qu'on dit. Hein,
c'est un peu décevant.
Oui. Et surtout qu'après ça donne faim et après on mange. Voilà. Finalement on perd tout.
C'est
au lieu d'en
perdre.
Vous avez remarqué, après l'acte sexuel on a faim, donc finalement on va plutôt grossir avec ces conneries. Finalement c'est pas valable votre truc, Ariane.
Non, mais je pense qu'il faudrait mieux arrêter de faire du sexe, non, du coup?
Ah oui, devenir asexuel, voilà.
Ah, comme ça, on n'est pas tenté pour de manger ensuite.
Ah oui.
Non, c'est pas une bonne idée.
Vous n'avez pas arrêté le sexe. Alors, si je regarde votre ligne, Robert Zwilly, à mon avis, vous continuez le sexe, il me semble. Allez, on se retrouve dans quelques instants et on va continuer à parler de la joie.
Je ne peux rien vous cacher.
Bah oui, hein, je vois ça. On va continuer à se réjouir, alors.
32-16 touche 1, réagissez en direct sur RMC.
Et un petit tour du côté de rmc.fr avec ce mail de Jean-Luc qui nous dit « Bonjour, que pensez-vous de la situation actuelle qui est assez morose? Est-ce que finalement c'est pas aussi anti-joie tout ça ?» Oui, alors c'est intéressant ce que dit Jean-Luc, parce qu'au fond, là aussi, on va être très subjectif par rapport aux informations. Certains vont ça va aller complètement les déprimer, puis d'autres vont relativiser et vont savoir rester joyeux. Qu'est-ce que vous en...
On est en plein tourment émotionnel. Quand on proteste dans la rue, on exprime sa colère. Et on exprime sa colère parce qu'autrement, on n'a pas réussi à la réguler. Donc, c'est bien souvent voué à l'échec parce que la satisfaction qu'on en aura sera porteuse des blessures qu'on aura ressenties qui sont profondes. Donc, je vois peu d'issues là, aujourd'hui, par exemple, dans cette période morose où on voit des grèves, où on voit
des manifestations, des casseurs.
Et un gouvernement qui prend une posture particulière qui fait que ça alimente la colère de chaque bord. Et on rentre dans un rapport de force qui implique à un moment donné, à l'un ou à l'autre, soit d'être jusqu'au boutiste, soit de renoncer. Et ça demande beaucoup d'humilité et de bienveillance. Je ne sais pas qui sera le premier capable de ça.
Ça, je ne prendrai pas le pari non plus, évidemment, Robert Zully. Mais en même temps, et c'est ça qui est peut-être intéressant aussi à comprendre, c'est qu'il y a évidemment des ressentis individuels qui se mélangent, et ça fait donc finalement une meute de ressentis. Et c'est là où on voit que quelque part, encore une fois, il y a une part d'animalité en nous.
Bien sûr, mais ce ne sont pas des ressentis, ce sont des ressentiments. Ces ressentiments...
Oui, bien sûr, puisqu'on parle de colère, évidemment.
Voilà, qui sont de la haine, de la vengeance, de l'amertume... Des choses vraiment négatives qui font qu'on a du mal à accepter la réalité qui nous est proposée par le système. Et donc on rejette le système.
Mère au foyer, femme active, ado, en couple ou célibataire, tous chez Brigitte sur RMC.
Notre guide, Robert Zully, qui est avec nous, psychologue clinicien, auteur de différents livres sur les émotions. Et aujourd'hui, tout particulièrement, nous parlons de la joie. Et on a, bien sûr, beaucoup développé ce qu'était la joie. Et finalement, c'est pas si simple, ça. Alors, je l'utilisais il y a un instant, ce mot, et je l'aime beaucoup. Se réjouir, dans réjouir, il y a jouir.
Et à jouir, et à recommencer.
Oui, et à recommencer. C'est vrai que le terme jouir, c'est devenu un terme très sexuel, mais au départ, c'était pas ça. Hein.
Oui, mais on le voit dans d'autres concepts qui sont par exemple l'exercice du pouvoir. L'exercice du pouvoir permet à celui qui l'utilise de ressentir une véritable jouissance. Et pourtant, on ne parle pas de sexualité.
Bien sûr.
Et c'est pas sale. Que de ressentir cette jouissance. C'est ce qu'on en fait qui peut être sale du pouvoir, mais c'est pas le pouvoir en lui-même. Mais effectivement, il y a cette idée que pour accéder à la joie, c'est un chemin épineux. Et d'ailleurs, j'aime bien un proverbe allemand, je crois, qui dit que la joie est suspendue à des épines. Donc c'est joliment dit, et ça nous permet de pas oublier que, ben effectivement, quand on a réussi à dépasser ces
épines... Il faut accepter de se piquer pour être joyeux.
Il faut peut-être accepter...
Enfin, au sens piquer, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Mais surtout, quand on a ressenti ça, on a envie de recommencer, de se réjouir. Et c'est ça la démarche vertueuse. C'est-à-dire que bien souvent, et c'est ça qui procède aussi à l'éducation de nos enfants, parce que c'est parce que nos enfants font des choses qui leur apportent du plaisir... qui vont avoir envie de recommencer. Quand vous dites à votre enfant de dire bonjour à un adulte alors qu'il n'a pas envie, ça va l'agacer, il va trouver ça injuste, ou alors il va avoir peur de l'adulte. Donc ses émotions vont plutôt le réfréner dans cet acte social. Or, quand il va le faire pour faire plaisir à ses parents, ou parce qu'il a peur d'être puni s'il ne le fait pas, il va se rendre compte potentiellement que l'adulte à qui il le fait va s'intéresser à lui. Parce que quand l'enfant dit bonjour à un adulte, l'enfant se tourne vers lui, il dit bonjour mon petit, comment tu t'appelles, comment tu vas? Et il va...
Et là, il y a une reconnaissance et donc...
Un lien. Et c'est ça qui est extraordinaire avec justement ce registre émotionnel et qui en fait un domaine extrêmement vertueux, c'est que cette émotion positive est l'oxygène du lien social ou du lien tout court avec tous ceux qui nous entourent. Et seul au monde, on ne ressentirait très peu de joie, je vous le garantis.
Oui, mais j'en suis certaine.
Et ce serait illusoire de se dire qu'on serait mieux tout seul.
Et voyez, moi j'aime, oui. J'aime particulièrement les animaux parce que c'est vraiment source de joie.
Oui.
Les chiens, c'est extraordinaire. Il suffit de, enfin moi qui suis quelqu'un de particulièrement joyeux, je m'excite toute, enfin je vais pas utiliser ce mot, mais bon, je suis joyeuse.
Mais c'est pas forcément sexuel l'excitation.
Oui, non, mais si, dans l'esprit de tous ceux qui m'écoutent, je suis sûre qu'ils vont entendre ça
pas
sexuel.
Pas tous.
Donc je dis je suis super oui. joyeuse et puis ça y est il y a toutes mes chiennes remuent la queue.
Bien sûr.
Non mais je veux dire la nature les animaux je trouve que c'est vraiment un terroir de joie.
On parle des animaux aussi comme d'un miroir émotionnel hein.
C'est possible. Peut-être que si j'étais particulièrement ouais. triste j'aurais en effet peut-être ouais. aussi cette
je crois que vous aimez bien les chevaux aussi.
Oui oui absolument.
Hein. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits avec les chevaux justement je pense à certaines missions dans le monde de l'entreprise où on amène des cadres, des managers
à se mesurer
au cheval. Or, le cheval, il ressent
nos peurs surtout.
Vos peurs et donc réagissent en fonction de cela. Ils sont votre miroir émotionnel. Et votre capacité à prendre en main le cheval témoigne de votre capacité à créer du lien, au fond. Mais à créer du lien qui soit bienveillant. C'est pas un lien qui est juste intéressé de dire tiens je vais me rapprocher de l'autre parce que j'ai un intérêt égoïste à le faire, mmh. mais parce qu'il va être source de confort relationnel.
Et d'ailleurs dans ces exercices qui sont faits en entreprise avec les chevaux, c'est pour montrer à la personne donc qui est dans le
qui est coachée
oui quelles sont ses peurs, quelles sont ses inhibitions, quel est son besoin de contrôler, enfin c'est pour lui parler de lui hein. Bien sûr le cheval étant justement, oui. ce miroir qu'il le renvoie à lui-même.
C'est un outil de développement personnel.
Il y a juste une question quand même oui. qu'il faut que je vous pose, Robert Zwilly, sur justement la joie. Non, pas
non.
du tout. Quand c'est quelque chose que j'entends quand même malheureusement assez souvent, quand l'un des deux partenaires est particulièrement déprimé, voire dépressif, pour l'autre c'est très difficile parce que ça atteint beaucoup sa joie de vivre. Quel
Bien
conseil
sûr.
Vous donneriez
L'autre ne peut pas être un thérapeute pour son conjoint.
Ça, c'est clair, oui.
Donc, s'il ressent ça chez son conjoint, il doit néanmoins l'aider. Mais l'aider, c'est être présent, à parler de ce qui va pas, et c'est l'accompagner dans une démarche qui pourrait l'aider, justement, à faire un vrai travail personnel pour comprendre d'où viennent nos souffrances. Dans le travail que j'ai accompli au départ pour comprendre ces mécanismes émotionnels, je me suis rendu compte qu'on était tous confrontés à ce que j'appelle une blessure émotionnelle originelle, qui est une sorte d'étincelle qui nous fait développer des comportements qui sont mécaniques, de préservation, mais qui sont bien souvent pas adaptés à l'environnement dans lequel on est. Et quand on arrive à comprendre cette blessure émotionnelle originelle, je crois que c'est dans le livre sur les enfants où j'en cite 5-6 comme l'abandon, la trahison, l'imposture, l'inutilité, etc. Quand on arrive à mettre des mots sur cette blessure émotionnelle originelle, déjà ça dédramatise et ça nous permet dans une démarche thérapeutique ou de développement personnel d'en réduire l'impact néfaste dans notre quotidien. Et donc c'est ça que j'inviterais à faire parce que le conjoint n'est pas un thérapeute, n'est pas un coach. Il peut donner tous les conseils qu'il veut, ça sera pas forcément bien compris parce que lui il le fera avec son ressenti. Or notre ressenti, il est le fruit de notre filtre émotionnel personnel. Vous savez, on parle maintenant de plus en plus, et c'est intéressant quand vous parliez de la joie aujourd'hui. Même la météo utilise maintenant la notion de température ressentie, qui n'est pas forcément
oui,
la température objective, scientifiquement mesurée.
Oui, parce que quand il y a du vent, on ressent plus le froid.
Oui, ça peut être un vent chaud, donc on aura encore plus chaud que qu'à l'abri.
En région parisienne, je ne l'ai pas beaucoup senti,
c'est
le vent
vrai,
chaud.
Hein. Mais ça existe.
Je veux bien vous croire.
Mais en tout cas, ce dont ça témoigne, c'est que notre ressenti, la manière dont nous entretenons notre rapport à la réalité, il est très étroitement corrélé à notre capacité à gérer nos émotions de manière favorable.
En tout cas, c'est une joie de vous écouter, Robert Zully. Et alors, je vais conclure. Il y avait des cartes qui disaient « je pense, donc je suis ». Et puis, oui. Il y a Robert Zully qui nous dit « je ressens, donc je suis ». Et ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Merci.
C'est une belle conclusion.
Merci beaucoup, merci, en Brigitte. Tout cas, Robert Zully. Bon week-end à tous. On sera avec Ugren et Dorian Malovic qui nous dira comment aiment les Chinois lundi. Voilà notre programme pour lundi. Mais tout de suite, bien sûr, on retrouve Vincent Moscato pour le Super Moscato Show.
Sur RMC, ne ratez rien de L'AL, amour et vous. En podcast avec l'appli RMC et sur rmc.fr.